On y arrivera à la conclusion. Bien. Alors, cette notion de brillant. Signifie donc, dans la définition de base, Melia, Yesh, Meaï, Yesh, Meaï, signifie que ce qui est, Yesh, Melia, apparaît, mais à partir de rien, Aïe, néant. Il y a à partir de il n'y a pas. Et ça correspond en français à l'expression donc latine, ex nihilo. Et nous avons vu donc lundi matin, assez abondamment, qu'une telle expression ne fait pas partie, une telle catégorie ne fait pas partie des données de la raison, ni non plus de l'expérience de la mentalité culturelle contemporaine, c'est-à-dire scientifique, scientiste, si vous voulez, mais de façon générale scientifique elle-même. Et alors, à partir de maintenant, j'embraye sur la notion que va substituer la tradition de la Kabbalah, et qui est, vous ne trouverez pas dans les textes sous cette forme, enfin, une sorte de stratégie d'exposition pour aller plus rapidement à l'essentiel, et qui sera Beliga, Yéhi, Béhaï. Et je m'explique tout de suite, ce sera l'objet de la première partie du cours ce matin. Et ce qui nous est incompréhensible, c'est l'apparition de l'être à partir du néant, je veux dire du point de vue des catégories d'évidence de la raison. Cela contredit fondamentalement le principe d'identité. C'est bien clair jusque-là, je pense que tout le monde était lundi matin. Mais, et comme nous l'avons dit aussi, c'est parce que nous n'avons pas expérience de ça. Je vous rappelle, nous n'avons pas de référence dans une illustration d'expérience de ce que peut être une telle réalité. Quelque chose apparaissant dans le néant. Ce quelque chose n'étant pas rien, puisque c'est le monde tout entier. Mais peut-être nous verrons qu'en réalité, nous avons une telle expérience. Mais nous le verrons plus tard. En tout cas, il y a une expérience qui peut nous être familière, je veux dire, qui peut être une illustration suffisamment familière, c'est la disparition de l'être. Même si nous n'avons pas expérience de l'apparition de l'être, nous pouvons avoir référence de l'expérience de la disparition de l'être. Et ensuite, nous reviendrons à la première définition. Peut-être avons-nous quand même expérience de l'apparition de l'être. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Et c'est ce que nous appellerions la néantisation. Nous avons expérience de la néantisation. Nous avons expérience de disparition de l'être. Vous vous rappelez, au Moyen-Âge, il y avait eu toute cette querelle sur la notion de, j'ai oublié comment ça se dit en français, vous allez m'aider, création spontanée, donc génération spontanée. Vous vous rappelez de cette discussion, Pasteur a été mêlé, etc. Et il est fort possible que, déjà depuis ce temps-là, peut-être plus récemment dans le temps culturel contemporain, que certains auteurs ou certaines thèses mettent en question cette négation de la génération spontanée, mais encore une fois, ce sont des hypothèses. L'esprit humain est capable de formuler la cohérence d'une hypothèse, même en contredisant l'expérience. Donc, le fait que je n'ai pas d'exemple à vous donner à la mémoire, mais le fait que vous pourriez trouver dans la littérature contemporaine l'affirmation de la notion de génération spontanée, malgré tout, si vous voulez, le principe de la culture contemporaine est de le nier. En tout cas, il est bien évident que nous avons expérience de disparition de l'être. À moins d'admettre, ne vous affolez pas de l'exemple que je vais donner, parce que nous aurons nuancé tout cela tout à l'heure, à moins d'admettre que la personne humaine n'est rien, qu'elle se borne à se ramener à la vie biologique de son corps, il est évident que la disparition d'une personne nous donne un exemple fondamental de néantisation. Vous savez que, selon la tradition juive, il s'agirait que de la néantisation par rapport à la manière d'être dans ce monde-ci. Et que, pour la tradition juive, la mort n'existe pas dans le sens habituel, dans le sens que ce serait le terme définitif de l'existence d'une personne vivante. Et nous savons, je dis ça un peu sous forme d'image, que la tombe n'est pas un terminal, mais que c'est la porte qui ouvre sur autre chose. Et ça, c'est d'autre part l'enseignement de la tradition juive, qui se rattache par un biais quelconque à notre problème. Mais il est bien évident que nous avons expérience dans l'histoire de notre monde refermé sur lui-même, de ce monde-ci refermé sur lui-même, de néantisation. Qui se dit en hébreu, Beria, Aïn, Neyesh. C'est-à-dire néant à partir de Elia, à partir de l'être. Alors que notre notion Beria, Yesh, Me'aïn est incompréhensible à la raison cependant doit accepter l'évidence de l'expression Beria, Aïn, Me'yesh, parce que de cela nous avons expérience. Et il suffit de se référer à toute mort, à toute expérience de mort. Encore une fois, c'est pour revenir tout de suite, selon la tradition juive, la mort n'est pas ce que l'on croit être, c'est un changement de vêtements, c'est un changement de manière d'être, mais comme ce n'est pas expérimental, nous nous relierons à ce principe sous forme d'article de foi. Mais dans tous les cas, dans l'expérience brute, eh bien, il y a disparition d'être. Pas seulement, vous rappelez l'expression « rien ne se perd, rien ne se crée ». Pas seulement qu'une synthèse se défait en éléments, et donc il n'y a rien qui a disparu, les éléments sont là, mais en réalité, la personne qui était présente grâce à cette synthèse, la personne, elle, a disparu, en tout cas de son monde. Elle se cache quelque part, peu importe, c'est un autre problème, c'est un autre sujet du point de vue de la tradition. Simplement, admettons, puisque j'ai parlé de cela, par postulat, parce que les notions qui sont objets de connaissance par la foi ne peuvent pas se décrire en analyse objective, puisque ce sont des expériences subjectives. Et c'est que, je vous cite simplement une des prescriptions du rite de la tradition juive par rapport à la mort, c'est qu'il est interdit de pleurer à côté d'un mort. C'est interdit. Et on le sait peut-être peu. On a le droit de pleurer, mais un peu loin, dans une autre pièce, dans une autre maison, mais pas à côté de lui. Parce que à côté de lui, ça signifierait qu'on réagit comme s'il était mort. Or, il ne l'est pas. Sa personne n'est pas morte, c'est son corps qui est en arrêt biologique. Est-ce que vous comprenez la différence? Or, comme il y a des étapes dans le temps, l'éloignement ne se fait pas tout de suite, l'éloignement se fait par étapes. Dans la première étape, l'éloignement est très proche. Je ne veux pas rentrer dans ce problème parce que c'est une autre question, mais le fait de, par exemple, à notre rite, il est interdit de parler à côté d'un mort avant l'enterrement d'autre chose que lui ne connaîtrait pas dans sa mémoire ou s'il s'agit des problèmes pratiques de l'enterrement. Mais de parler d'autre chose, c'est interdit parce que c'est un mépris pour cette personne qui est là mais qui ne peut pas intervenir, qui ne peut pas s'exprimer. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? Enfin, selon la tradition, il y a une seule différence entre un mort et un vivant, c'est que le vivant ne peut pas parler dans notre monde. Et par conséquent, il est vivant, ce mort. J'aurais des lapsus comme ça, mais c'est pas grave, c'est notre temps. Vous comprenez le problème, là. C'est pourquoi c'est une mitzvah, c'est une bonne action de citer les paroles de mort en son nom, quelque chose qu'il aurait dit, c'est en son nom, parce que ça lui permet de parler au moment où celui qui le cite parle. Vous voyez, de l'ordre dans l'ordre de la piété. Bien, je vous dis donc ça sous forme de postulat puisque nous avons parlé de ce problème. Mais dans tous les cas, expérience de néantisation, nous avons. Et donc, cette notion-là nous sera beaucoup plus évidente rationnellement que la première. Et c'est de là que l'analyse de la Kabbalah va partir. Est-ce que nous sommes déjà d'accord là-dessus? Parce qu'on ne peut pas voir la suite s'il y a réticence au niveau du postulat. Alors, nous allons prendre comme postulat que cette expression néant à partir de l'être, néant à partir de l'être ou néantisation par rapport à la manière d'être dans la masée, dans notre monde, cela est une notion expérimentable, donc dont la raison peut garder l'évidence. C'est le glissement que nous avons opéré. À partir de Beria, Yesh Me'ayin, qui nous est incompréhensible, on va d'abord nous proposer une notion transitoire qui est Beria, Ayin Me'yesh. Et cette notion de Beria, tout le monde comprend en hébreu maintenant? Cette notion de Beria, Ayin Me'yesh, va nous mener à la notion fondamentale de la Kabbalah, qui est Beria, Yesh, Be'ayin. Alors là, je vais commencer la description de cette notion-là. Et bien entendu, ce que je vais essayer d'expliquer, forme d'image, mais c'est une image intellectuelle qui explique tous les processus dans la réalité dont nous aurons à parler dans le problème de l'apparition à l'être au niveau de la notion de création extérieure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et bien voilà, c'est que le point de départ, et sur lequel nous allons réfléchir attentivement, c'est que ce n'est pas le néant qui précède l'être, mais c'est l'être qui précède le néant. Et la création est un processus qui apparaît dans l'être absolu, qui est là de toute éternité. C'est le monde qui a un commencement, pas l'être. Le monde, en tant qu'être, recevant l'être. En tant qu'être qui ne peut être que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait être. Vous vous rappelez l'analyse de la vie. Mais l'être qui donne l'être, lui, est non seulement préexistant au monde, mais de toute éternité, préexistant au monde. Ou à tout le monde. Donc, voilà l'évidence de laquelle l'hébreu parle, et qui est l'évidence radicalement opposée, inverse, de l'évidence de la philosophie grecque parlant de cette notion de création pour qui le néant précède l'être. Là, je vais un peu nuancer pour vous recoder à des analyses que vous avez peut-être lues ou entendues, mais je vais d'abord formuler ce postulat, c'est l'être qui précède le néant. Et que vous trouviez chez certains mystiques que cet être qui précède le néant est un être de tel infini absolu qu'on l'appelle néant par rapport à l'être qui va apparaître dans le monde, c'est une donnée d'ordre mystique claire d'ailleurs et évidente. Okay? Mais du point de vue de l'analyse rationnelle que nous essayons de récupérer, il est bien évident que ce néant antérieur dont nous parlons n'est plus le néant dont nous parlons habituellement rien, mais un être tellement total que par rapport à moi créature, il est tellement au-delà de ma manière d'être que pour moi, c'est mon néant d'être à moi. J'arrête là cette analyse parce qu'il ne faut pas trop paradoxe à la fois. Mais il faudrait là, à partir de ce moment, s'exprimer en langage poétique. Enfin, c'est pas contradictoire, c'est ce que je veux vous dire. Que cet être antérieur au néant où procédera l'être du monde soit appelé parfois chez les mystiques néant, nous pouvons le comprendre. Mais pour la communauté de l'expression, je vais l'appeler être. Et c'est plus que yesh, c'est ravaillant. Alors là, chaque fois j'écrirai les noms avec « et », je mettrai un couf, parce que nous n'avons pas le droit d'effacer un nom kadosh écrit. Alors, je n'ai pas écrit Ravaya, mais kavaka. Bon. Mais vous comprenez le terme qui dit l'être absolu. Et cet être absolu précède le processus que je vais décrire. Et voilà. Pour qu'il y ait place pour un monde, il faut donc que Dieu, en tant que l'être absolu antérieur au processus de création, se retire d'un point de son être pour laisser place à la place du monde. Parce qu'elle était la difficulté. Que si Dieu existe, comment penser la possibilité de l'existence d'un monde? Si Dieu existe, il est tout. Et donc, où loger un monde? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et pourquoi je dis si Dieu existe? Bien sûr, c'est notre foi que Dieu existe. Mais je me mets dans la cohérence du récit biblique. Le récit biblique nous parle de Dieu en tant que créateur. Donc, Dieu en tant que créateur précède la création. Et par conséquent, si Dieu en tant que créateur précède la création, où loger la création? Puisque par définition, Dieu c'est l'être absolu. Il n'y a pas de place pour autre chose. Est-ce que c'est clair? Je vous signale simplement une petite parenthèse, mais ne me laissez pas dedans. C'est vous voyez ce que les chrétiens ont fait de cette notion du retrait de l'être de Dieu d'un point de son être pour laisser place au monde. Ils en ont fait finalement une notion absolument idolâtre de la mort de Dieu pour le salut du monde. Vous voyez le processus. Et vous aurez toujours cette même expérience de voir qu'à la racine, de toute cette donnée chrétienne, de la conscience chrétienne que nous repoussons comme idolatrique, à la racine, il y avait une parole juive, mais poussée matérialisée dans une maquette de piété idolâtre. Nous ne sommes pas chargés, nous, d'expliquer aux chrétiens en quoi ils sont censés croire. Mais simplement, je vous indique ce que la pensée humaine non informée de l'expérience hébraïque, de ce qui est dit à l'origine par la tradition hébraïque, peut arriver à formuler des catéchismes complètement idolâtres à partir du judaïsme. Et malheureusement, c'est pas seulement le christianisme qui est sorti du judaïsme, c'est pratiquement toutes les idolâtres. Chaque fois qu'on pousse les choses dans une maquette matérialisée grossière. Les chrétiens seraient très étonnés de savoir que oui, que c'est vrai, l'explication de ce qu'ils appellent les mystères de leur religion se trouve à la racine dans la tradition juive, mais dans un tout autre sens, avec cette grande différence que d'un côté il y a la prophétie vraie, de l'autre côté des idolâtries, dans le sens païen, c'est-à-dire des réalités spirituelles incarnées, comme on dit. Est-ce que c'est clair? Et là, on est obligé, comme je le soir, parce que les choses sont... Il y a un esprit chrétien qui est pas parce que les choses sont très délicates, on est obligé de marcher sur des œufs. Et c'est pas une image quand je vous dis des œufs de Pâques, parce que c'est ça qui est. Alors, cette notion du retrait de l'être de Dieu d'un point de son être, d'un ridouche de la tradition de la Kabbalah, et qui s'appelle Tzimtzum. La racine, c'est l'etzamtzem. Alors, ce terme de l'etzamtzem, Tzimtzum, a deux sens différents en hébreu. Premièrement, le sens qu'il a dans le vocabulaire talmudique, de l'hébreu rabbinique en général. Et deuxièmement, nous verrons le sens qu'il a dans le vocabulaire de la Kabbalah. Et c'est pas le même sens, c'est même un sens opposé. Et tzamtzem, le premier sens, c'est contracter, rendre plus dense et faire occuper un espace plus restreint, contracté, tzamtzem. Par exemple, un tamtzit, c'est un concentré de jus de fruits, concentré de n'importe quoi. Ça s'appelle un tamtzit, concentré. Ça se concentration, mais enfin, c'est le sens, de l'hébreu talmudique. Et tzamtzem, ça veut dire densifier, faire occuper un espace plus restreint, récapituler, compresser, contracter. C'est clair? Par exemple, on dira que la Shrina fera un tzimtzum dans le premier sens pour occuper un endroit dans l'espace du monde. Et cet infini de la Shrina, il metzamtzemet et atzma, elle se metzamtzemet de telle sorte de pouvoir être entre les deux chérubins de l'arche du temple. Et on voit, quand on étudie les mesures du temple, que eh bien, cet espace n'existe pas dans notre monde, bien qu'il existe dans les mesures. Enfin, c'est un autre problème dont je ne voulais pas parler, je vous dis ça très rapidement. L'espace dans lequel est situé l'arche n'existe pas. Parce que nous avons le point de contact entre l'infini, l'éternité et notre monde spatio-temporel. Ce point de contact n'a pas d'épaisseur, n'a pas d'espace. Parce que nous avons, voilà, le tabernacle en tant que les murs. Okay. Alors, nous avons cette distance et cette distance. Puis, la Torah nous dit la largeur de l'arche, mais quand on additionne cette distance et cette distance, on aperçoit qu'il n'y a pas de place sur la largeur de l'arche. Et pourtant, ouais, on nous donne ces trois distances, celle-là, 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 ensuite ces deux-là, et ces deux-là égalent toute la ligne. Donc, il n'y a pas de place pour celle-là. Et la Torah sait très bien qu'elle nous donne des mesures, les mesures qu'elle nous a données. Il n'y a pas une erreur de copiste, si vous voulez. Elle nous donne ces mesures-là pour nous faire comprendre que l'arche était là, mais pas dans l'espace de notre monde, mais dans une espèce de point de jonction entre ce que serait l'infini, chez Metzamtzem et Atzmo, qui se contracte dans ce sens-là, la pointe du triangle, et qui est en contact avec notre monde des trois dimensions. Ce problème, si vous voulez, pour avoir une illustration de ce thème, c'est ce fameux mystère sur lequel les philosophes, et en particulier Descartes, Descartes non seulement dans le discours de la méthode, mais dans la méditation métaphysique, se sont penchés, comment comprendre le point d'insertion de l'esprit humain avec le corps humain. L'esprit est de l'ordre de l'infini, de l'ordre de la qualité, et il y a point de contact, point de jonction avec le corps, mais où et comment cela se passe. Différentes théories sous forme d'hypothèses de la réflexion philosophique, Descartes a donné une indication, d'après lui, ce point de contact serait la glande pinéale. S'il y a des biologiques parmi vous, vous savez, dans le cerveau, il y a toute une série de glandes, et il y aurait une glande qui, lorsqu'elle est excitée, liée, déclencherait des émotions dans l'âme, comme Descartes, en fait, des mouvements de l'esprit, et inversement, lorsqu'elle est atteinte, et bien ce que l'esprit a communiqué au corps ne passe plus, ne communique pas, pour lui, ce serait la glande pinéale, qui serait le point de jonction de ce qu'il appelle le parallélisme psychophysiologique, de ce que les modernes appellent le parallélisme psychophysiologique, c'est-à-dire les rapports entre l'esprit et le corps. Voilà, c'est ce problème-là, les rapports entre l'esprit et le corps, c'est ça veut dire, c'est le premier exemple de Tzimtzum dans le sens talmudique. L'exemple, c'était la Shrina entre les kérubis, la Shrina entre les chérubins. Bon. Seul ce qui était présent voyait dans notre espace, cet espace sans espace, qui était l'endroit de l'arche. Et je donnerai peut-être un exemple très clair. En mathématiques, eh bien, on utilise des images, l'image du point, l'image de la droite. Ils nous ont montré bien qu'au niveau de la réalité mathématique, un point n'a pas d'épaisseur. Et pourtant, il existe. Et voilà donc une réalité qui existe sans épaisseur. C'est lorsque ces êtres mathématiques s'incarnent dans l'être physique que je parlerai de l'épaisseur, mais pas de l'être mathématique, de l'être physique. C'est mon corps qui est une épaisseur. Et mon âme est dans une dimension spirituelle, autre, pas parler comme les auteurs de science-fiction, la quatrième dimension, en fait, peut-être c'est pas ça, peu importe, mais il est bien évident que ça fonctionne, puisque ça fonctionne. Puisque je parle. Quand je parle, mon corps s'exprime. C'est donc que quelqu'un parle à travers mon corps. Ce quelqu'un, c'est moi. Et donc, ce moi qui suis moi est accroché quelque part à travers mon corps, selon la tradition juive, tout le corps. Et bien sûr, il y a des moments, il y a des endroits privilégiés, qui sont le foie, le cœur, le cerveau. Si vous voulez retenir ça sous forme mnémotechnique, le cerveau, enfin, ça se dit moi, le cœur, et le foie, kabel. Alors, retenez le mot melech. Melech, c'est même la mode kaf. Et alors, l'insertion de ce monde que j'appelle mon esprit, mon âme, c'est pas exactement la même chose, c'est le même monde, eh bien, elle se fait à travers tout mon corps, toute la peau, tout, mais à des niveaux différents de dignité. Des niveaux différents de dignité qui sont finalement le kaf, la mode est le même. De Moar, le Kabet, à Paris, une fonction royale de l'âme par rapport au corps. Bien. Et lorsque c'est moi qui suis maître de mon cerveau, de mon cœur et de mon foie, je suis maître. Si c'est mon cerveau, mon cœur, mon foie qui sont maîtres de moi, je suis Hevet. Je vais repris la clou, non? C'est ça, clou. Joli.
À l'inverse, non?
Exactement. Très joli. C'est un lapsus calamite. Non, c'est pas un lapsus. Clone, c'est la calamité. Bien. Et ça, c'est donc le premier sens du monde de Tzimtzum. Bien. Mais la Kabbalah va utiliser un deuxième sens complètement opposé du monde de Tzimtzum pour répondre à la question comment faire apparaître la place du monde. Quand je dis la place, l'endroit, l'espace, c'est pas en termes spatiaux, c'est en termes d'être. Une place d'être. Pour que soit logé ce monde que Dieu veut créer. Vous vous rappelez de la difficulté de départ. C'est l'existence du monde qui est l'impossibilité pour la problématique de la pensée de la Kabbalah. Qu'un monde existe, c'est cela qui fait le problème. Je vous ici un petit schéma, ça intéressera peut-être ceux qui s'intéressent un peu à la philosophie et à la théologie. Le problème du philosophe, c'est à quelles conditions l'idée d'homme doit répondre pour qu'elle soit vraisemblable, pour qu'il soit vraisemblable qu'un homme existe. Et ça, c'est tout le problème de la philosophie. Le problème de la théologie, c'est à quelles conditions l'idée de Dieu doit répondre pour qu'elle soit vraisemblable et que nous puissions admettre qu'un Dieu existe. Eh bien, la Kabbalah ne connaît ni ce problème-là, ni celui-là. Elle peut, étant donné sa propre connaissance, aider le philosophe ou le théologien à y voir clair dans leurs problèmes, mais ce n'est pas les problèmes de la Kabbalah. La perplexité du kabbaliste n'est pas la perplexité du philosophe ni la perplexité du théologien. Pour le dire en d'autres termes, elle considère la tradition de la Kabbalah, le problème de la philosophie, le problème de la théologie, que je répète brièvement, à quelles conditions l'idée de l'homme doit répondre pour être vraisemblable, pour être vrai, dirait Descartes, à quelles conditions l'idée de Dieu doit répondre pour être vrai, dirait Kant, eh bien, la Kabbalah ne connaît pas ces problèmes-là. Elle les considère comme des problèmes d'enfants, comme des problèmes infantiles. Comme des problèmes, si vous voulez, de pré-sagesse. Parce que son problème, à elle, est beaucoup plus sérieux. Comment se fait-il qu'un monde existe? Que l'homme existe, ça va de soi pour un kabbaliste. C'est l'homme qui pose les questions, donc il existe. Est-ce qu'il y a ici place pour faire une histoire de ce qui s'appellerait une histoire de la philosophie? Et puis, qu'un Dieu existe, ça va de soi. Si déjà moi j'existe, alors à plus forte raison, c'est vrai que Dieu existe. Nous avons vu ça avec Abraham, lundi matin, je ne crois plus. Et le kabbaliste considère ces espèces de façons sérieuses de poser ces problèmes-là, la philosophie, la théologie, comme vraiment de l'infantilisme. Je ne voudrais pas être trop méprisant au niveau des mots, mais on sent ces problèmes-là ne se posent à aucun kabbaliste, dans aucun ouvrage de Kabbalah, dans aucune tradition de Kabbalah, on parle de ça. C'est pas sérieux de poser des problèmes pareils. C'est une fois ces deux évidences intégrées, l'homme existe, tu existes, alors le vrai problème apparaît. Comment se fait-il qu'un monde existe? Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Parce que, ou bien ce monde, c'est Dieu, ou bien ce monde, c'est l'homme. J'explique les deux formules. Ou bien ce monde, c'est aussi Dieu. Et alors, il s'agit du panthéisme, hein, qui a supprimé la question en l'évanouissant. Parce que le panthéisme sait très bien que le monde, même en tant que Dieu, c'est pas Dieu en tant que Dieu. C'est Dieu en tant que monde. Et par exemple, prendre dans Spinoza, qui n'est pas exactement panthéisme, mais panenthéisme, enfin c'est la même famille spirituelle, qui sera obligé de parler de nature naturante et nature naturée. Et on sait très bien que Dieu c'est la nature, mais il y a un aspect de ce Dieu qui est la nature, qui n'est que la nature naturée. C'est-à-dire c'est une espèce d'évacuation verbale du problème, finalement. Dieu en tant que nature. Oui, mais Dieu en tant que nature, c'est pas la même chose que la nature en tant que Dieu. Je vais trop vite, peut-être. Non, mais voyez comment le problème se pose. C'est-à-dire, ou bien le monde fait partie de Dieu, et on a supprimé le problème, en renvoyant un mystère supérieur à la philosophie, alors comment se fait-il que l'homme existe? Si tout est Dieu. Et alors l'homme existe, puisqu'il pose ses problèmes. Et ou bien le monde fait partie de l'homme, et c'est ce qu'on appelle la philosophie idéaliste. C'est-à-dire pour qui le monde extérieur n'a pas de réalité, et n'est qu'un monde d'image de ma représentation projetée dans l'espace et le temps. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire au fond, et la limite de cette philosophie idéaliste dans le sens étymologique du terme en philosophie, c'est qu'il n'y a pas de monde extérieur, il y a la conscience humaine, et que tout ce que j'appelle le monde extérieur, ce sont des images de ma conscience. La limite de cette philosophie idéaliste, c'est ce qu'on appelle le solipsisme. Je suis seul à exister, vous n'êtes que des images de ma pensée. Tant que les images ne me gênent pas, votre existence est garantie. Si les images me gênent, je les supprime, parce que ça donne des cauchemars, des images qui gênent. Vous voyez comment ça se dégage en politique. Cette morale, cette philosophie idéaliste du solipsisme. Est-ce que c'est clair? Ce sont des choses dangereuses. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer en philosophie ce qui fait la réalité du monde extérieur. Puisque je ne connais le monde extérieur que par des images, des perceptions. Alors peut-être qu'il n'existe que mes perceptions et qu'il n'y a pas derrière un véhicule dans la réalité. Bon, je ne vais pas vous donner des cauchemars, mais vous voyez à quoi pense les philosophes. C'est comme ça. Et alors... Et il n'y a pas de réponse en philosophie à ce problème qui se pose de cette manière. Qu'est-ce qui fait la différence entre une sensation et une image? Une sensation, c'est une image qui porte avec elle le sentiment de réalité. Une image, c'est une sensation, une image qui ne porte pas avec elle le sentiment de réalité. Mais oui, mais il y a des sensations qui sont prises pour des images, il y a des images qui sont prises pour des sensations. Vous avez entendu parler des hallucinations, des gens qui ont des voix, qui ont des visions, qui ont... Bon. Et alors, et vous voyez, j'efface tout ce paragraphe, simplement je voulais l'indiquer pour situer le problème de la perplexité propre à la conscience kabbaliste. Il faut expliquer l'existence du monde. L'existence de l'homme ne fait pas problème, l'existence de Dieu ne fait pas problème. Et c'est pourquoi on ne trouvait jamais dans la pensée traditionnelle de la Kabbalah un souci philosophique ou un souci théologique. Sauf lorsque le kabbaliste décide d'aider le philosophe dans son problème ou d'aider le théologien dans son problème. Est-ce que c'est clair? Bon. Maintenant, et nous revenons à la notion de Tzimtzum qui va être employée. Je n'ai pas dit que ça c'est les premières formules, mais enfin vous avez déjà en note commentaire. Pour nous faire comprendre Yesh, B, Aïn. Il faut d'abord faire apparaître un Aïn dans le Yesh.
On n'a pas vu le deuxième.
C'est ça que je vois maintenant. Alors, là, faites bien attention, je vais vous dessiner des images. Mais retenez cela comme image. Plus tard, quand vous aurez beaucoup étudié, vous verrez que ce n'est pas seulement des images. Mais pour le moment, il faut les prendre comme images. Sinon, on ne peut pas démarrer. Parce que nous allons voir que la Kabbalah va nous enseigner des choses très simples, des schémas très simples. Simplement, ce que je vous dis, du point de vue de la méthode, c'est qu'il faut apprendre énormément de choses compliquées pendant des années et des années pour arriver à ces choses simples. Je vais essayer de vous les transmettre simplifiées, Et donc, on est ça au niveau de l'image. Et voilà, à partir d'un point de l'être absolu antérieur, pris comme centre de ce qui va se passer, va se produire un phénomène de tsimtsum dans le deuxième sens, c'est-à-dire rétractation. Et une sorte de rétractation. Et alors, je vais déjà employer le langage de la Kabbalah. Quand je parlais de l'être, je parlais de la lumière. C'est la seule éclairage, si j'ose dire, que nous avons quant à l'être. Eh bien, la lumière qui occupait, et tout ça n'est qu'image, puisque la lumière n'occupe pas de place, puisque ici, c'est pas de l'espace, il s'agit de l'espace d'être. Elle, la lumière qui occupait un point va être retirée du centre à la périphérie. Et il va apparaître une sphère. Vous suivez jusque-là? Alors, tsimtsum, dans le deuxième sens, c'est rétractation. Et l'infini absolu va se vider d'un point dans lequel va apparaître ce que j'appellerai plus tard l'espace du monde. Il fallait trouver un moyen de faire apparaître ce vide d'être où le monde sera logé, et que j'appellerai l'espace en français, mais retenez déjà une phrase en même temps que le terme employé par les bleus ici, ce sera le mot de halal. Et rappelez-moi, si j'oublie halal, rappelez-moi si j'oublie chet lamed mem, de vous expliquer le sens étymologique de ce terme. C'est pas pour rien que c'est le mot de halal qui signifie le vide. Le vide des mondes, le vide dans lequel les mondes sont logés. Alors qu'est-ce qui se passe? Un phénomène, mais voyez ça en trois dimensions, un phénomène de rétractation de la lumière à partir d'un point pris comme centre, et qui fait apparaître donc une sphère. Ici je vous le marque comme circonférence, mais voyez une sphère. Pourquoi? Parce qu'à partir du centre, la lumière est refoulée à l'extérieur. Et c'est une sphère qui apparaît, et non pas n'importe quelle autre figure géométrique dans les trois dimensions, parce que la lumière antérieure était simple. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de côté. Tout est unidimensionnel, je veux dire. Ce phénomène de rétractation est égal dans toutes les directions à la fois. Et par conséquent, c'est une sphère qui apparaît. Bon. Alors ça, c'est le tsimtsum dans le deuxième sens. À partir d'un point pris comme centre, va apparaître un halal, c'est-à-dire un espace, un vide absolu d'être, dans lequel le monde sera en fin de compte logé par un processus que je décrirai peut-être que en fin de cours, demain seulement, mais par un processus qui va nous permettre donc de résoudre notre énigme de départ qui était l'inversion de la donnée philosophique. Nous allons substituer Beria Yesh Be'ayin, du Yesh va venir dans le Ayin, okay, à la notion incompréhensible de Beria Yesh Me'ayin. C'est clair? Et la notion transitoire, c'est l'apparition de ce halal comme résultat d'une néantisation d'un point d'être de l'être absolu et qui s'appelle Beria Ayin Me'yesh. C'est le néant qui est créé à partir de l'être. Alors, laissons de côté tout risque de vocabulaire païen, qui est un exemple tout à l'heure, et si on réfléchit à ça. Et vous vous rappelez que le grand principe de la tradition juive, c'est de substituer la problématique morale à la problématique métaphysique. Je vais vous donner des exemples au niveau des valeurs morales de cet acte de tsimtsum dans le deuxième sens, que dans le vocabulaire général de la tradition, on appelle Gevura. Alors, réfléchir sur ce mot de Gevura, la vertu du Gibor. Vous allez voir pourquoi je ne traduis pas, parce que je voudrais que vous compreniez par vous-même comment il faudrait penser la traduction. Bon, vous allez ouvrir un dictionnaire, vous verrez Gibor vaillant, Gibor fort. Mais quel sens ça peut avoir de dire, en parlant de Dieu en tant que créateur, qu'il est Gibor? Être plus fort que quelqu'un de plus faible, c'est pas être fort. Être plus fort que quelqu'un de plus fort, on ne peut pas. Alors quel sens ça a d'être fort? Quand je dis de quelqu'un qui est fort, qu'est-ce que je veux dire? La réponse de la tradition, c'est être fort n'a de sens que si on est plus fort que soi-même. Parce qu'être plus fort de quelqu'un de plus faible, c'est pas de la force, c'est tout simplement que l'autre est plus faible. Et être plus fort de quelqu'un de plus fort, on peut pas. Donc il y a deux places pour la notion de vaillance qu'en termes moraux, être plus fort que moi-même. Et la Mishnah des Prières dit, Ezehu Gibor, Akovesh et Kitzro. De qui peut-on dire qu'il est Gibor? Celui qui est plus fort que ses propres instincts. Et puis on cite un verset, Tov Gibor Milochet Il. Un verset qui dit, le Gibor, le vaillant, est plus grand que celui qui conquiert une ville. Celui qui conquiert une ville, c'est pas de lui qu'on va dire vaillant. Parce qu'il a pu conquérir la ville, c'est qu'il était plus fort qu'elle. Enfin, ça veut dire qu'elle était plus faible que lui. Alors, c'est pas de la vaillance. C'est tout simplement une mise au point dans l'ordre du rapport des forces. Alors, la notion. Oui, la grande différence que nous avons avec la mentalité qui est derrière le français. Derrière le français, la vertu, ça vient, le mot de vertu, ça vient du mot latin, vivre, viris, quel, virtus, vient de là, ça veut dire la force de celui qui conquiert la ville. Oui, le romain est vertueux quand il conquiert une ville, alors que l'hébreu est vertueux quand il domine ses instincts. Oui, la différence d'emblée. Alors, rapportons cette analyse à Dieu. En tant que créateur, et nous allons voir apparaître la notion de Gevura comme Dieu créateur. Ben, c'est tout simple. Quel serait l'instinct dans l'être de Dieu? C'est le fait que l'absolu est absolu. Et le fait que l'absolu est absolu, ça veut dire qu'il occupe tout l'être. Il touche tout. Le yetzer du créateur, c'est quoi? Et il touche tout, ça veut dire, on va traduire tout ça, il peut mettre la traduction, il touche tout. Envahissement, il touche tout. Se répandre, se. Et c'est clair, il te pâchait. Hein? L'instinct de il te pâche tout, c'est-à-dire l'affirmation de soi. Alors, pour que l'autre ait une place, il faut que je me restreigne dans mon il te pâche. C'est ça qui s'appelle que pourra. Cet effort de tsimtsum de moi en moi qui fait apparaître une place pour l'autre. Et c'est d'emblée en termes de valeur morale que ça nous explique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Laquelle? Ok, on a déjà compris Marie. Non, je ne veux pas parler de ça parce que c'est à l'envers. Non, on n'a pas encore compris la cible. Alors, je reviens au problème. Et on arrive au problème. Vous remarquez une chose, c'est que toutes les conquêtes d'un pays quelconque, dans toute l'histoire de toutes les sociétés, se font de l'extérieur des frontières à l'intérieur. Toutes les guerres d'Israël avec l'environnement se font du centre à la périphérie. On ne sait pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Alors, ça n'a rien à voir. Oui. Non, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais le verset dit « Minou est à arrêt de ses choix ». Verset 28, chapitre 1 de la Genèse. Regardez bien le verset. Le commandement au premier homme. Voilà comment on occupe une terre. Remplissez la terre et conquérez-la. Normalement, si celui est égoïste, il aurait dû dire conquérez la terre et remplissez. Vous voyez comment ça se passe? Juste à l'inverse. Vous avez une fois visité le Golan. On a parlé du Golan. Eh bien, visitez une fois avec un archéologue. Et puis après, vous posez la question, ce pays, quoi, je vis aussi. Mais visitez d'abord le pays. Bon, alors revenons au problème. Et la vraie question, c'est vraiment, qu'est-ce que les Français font en France? Qu'est-ce que les Juifs font en Juifs? C'est le vrai problème. Allez, on vient à notre question. Alors, là... Et cette deuxième notion de Tzimtzum, c'est donc, elle va s'appeler Gevura. Et je vais essayer de vous rendre sensible au fait que cette force de Gevura opère constamment, de façon éternelle, depuis que le monde est créé. Enfin, permanent. Okay. Depuis l'instant où Dieu décide de créer un monde, doit apparaître ce halal. Et alors, pour que ce halal ne soit pas détruit en tant que halal, et je veux dire tout de suite contre quoi il faut lutter, il faut donc que cette force du Tzimtzum continue à opérer sans arrêt pour que la périphérie du halal soit préservée contre l'irruption de la lumière extérieure qui a tendance à revenir ou à aller partir. Vous suivez l'analyse de l'image? Alors ici, à la périphérie extérieure du halal, de l'intérieur vers l'extérieur, j'ai une force considérable qui s'appelle Gevura. Le monde n'existe que en relation à cette vertu de l'être absolu que nous appelons Dieu en tant que créateur, qui préserve l'espace du monde et qui, par conséquent, lutte contre lui-même d'une certaine manière. Tout ça, ce sont des images, vous comprenez, de façon permanente pour que le monde ait une place pour y être situé. Et que si cette Gemoura fléchit, eh bien, tout l'être qui avait été rejeté à l'extérieur et qui est en souffrance dehors, un peu langage postal, eh bien, a tendance à revenir et à détruire le monde. Est-ce que c'est clair? Et alors, jusque-là, ça va?
Non. Ouais.
Je vais reprendre ça. Simplement, ajouter une phrase. Si la Gemoura qui opère à toute cette périphérie de la circonférence du Halal pour repousser l'être qui est dedans, dehors, et nous verrons que c'est avec une force terrible que cet être qui était dedans mais qui est dehors veut revenir. Donc il faut qu'il y ait une force colossale pour le repousser à la périphérie. Cette force est appelée Gemoura. Si cette force fléchit, l'impétuosité de l'absolu rentre dans le halal et détruit les mondes. Les efface. Est-ce que c'est clair? Bon. Et là, on apprend, chose dangereuse, on apprend que les actes des hommes influent sur cette force. Si l'homme fait le bien, la Gemoura est grande et le monde est protégé. Si l'homme fait le mal, la Gemoura est atténuée, elle est atteinte et le monde est moins protégé. Et quand il y a un trou quelque part, irruption de l'être antérieur, il y a destruction du monde, du chaos. Mais le chidouche de la tradition juive, de la tradition biblique, c'est que cette force-là dépend d'une certaine manière, nous verrons à quel niveau. Parce que quand même, il y a alliance avec le monde, d'étape en étape de l'histoire, et cette alliance garantit qu'il n'y a pas de lutte, qu'il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple...
La Gemoura est humaine?
Non, la Gemoura est celle de Dieu, mais elle dépend du mérite de Dieu. Et, enfin, je dis, il n'y a pas de déluge. Ce qui a été promis, c'est qu'il n'y aurait pas de déluge d'eau. Déluge de feu, on n'a pas dit. C'est autre chose. Alors, une demi-minute. Je vais reprendre cette adresse. En vous donnant une autre manière d'expliquer. Étant donné que l'état antérieur de l'être, avant le tout, c'est ce que j'appelle l'absolu, c'est-à-dire la substance